Bonjour à tous et à toutes, Florence Westergaard pour vous présenter notre nouveau podcast Escale. 160 millions, c'est le nombre d'enfants encore victimes du travail des enfants en 2021. De plus, 9 millions d'autres sont en danger en raison des effets de la Covid-19. Alors que 2021 a été déclarée année internationale de l'élimination du travail des enfants, nous verrons avec Francesco D'Ovidio, responsable des principes et droits fondamentaux au travail à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, comment le travail des enfants met en danger non seulement leur santé, mais leur éducation. Le travail des enfants est interdit. C'est ce qu'indique l'OIT, l'Organisation internationale du travail basée à Genève en Suisse, qui a décidé après la Première Guerre mondiale que les enfants de moins de 16 ans ne devaient pas travailler, mais plutôt aller à l'école. Pourtant, ce problème est loin d'être résolu. Bien que le travail des enfants eût enregistré une baisse ces 10 dernières années, le nouveau rapport de l'OIT, Travail des enfants, Estimation mondiale 2020, Tendance et le chemin à suivre, montre une augmentation de près de 9 millions d'enfants au cours des 4 dernières années, inversant la précédente tendance à la baisse. Les nouvelles estimations sont un signe d'alarme. Francesco D'Ovidio.
La mauvaise nouvelle est qu'à cette vitesse, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif de SDG, l'objectif du développement des Nations Unies, parce que c'est un objectif très, très ambitieux qui dit qu'il faut éliminer toute forme de travail d'ici l'année 2025. Donc, si on fait des projections à l'allure à laquelle on allait avant le COVID, on n'aurait pas atteint cet objectif. Maintenant, le COVID a compliquer les choses davantage et à ralentir, voire même d'inverser les progrès accomplis jusqu'à présent.
Oui, justement, donc on parle bien sûr du COVID qui a vraiment aggravé la situation. Donc, sont-ils vraiment les victimes cachées de la pandémie, ces enfants?
Oui, cachés, même pas vraiment cachés, c'est très évident, c'est fléau aussi pour les enfants les plus vulnérables en général. Parce que c'est lié à aux aspects économiques, le travail des enfants, c'est lié à la misère, à la pauvreté. Aucun parent veut envoyer ses propres enfants à l'exploitation, mais parfois les parents sont obligés de le faire. Donc, si on regarde au niveau de l'emploi dans le monde, le PIB toujours a estimé depuis que la pandémie a commencé, on a essayé de voir quelles sont les implications sur l'emploi. Donc, 114 millions d'emplois ont été perdus en 2020, 114 millions d'emplois dans le monde entier. Et si on considère qu'il y a seulement 1 sur 2, 50% des travailleurs ont une protection sociale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dans l'extrême pauvreté. En gros, on pense qu'on va passer de 40 à 60 millions de travailleurs qui vont tomber dans l'extrême pauvreté. Et ça, c'est une cause fondamentale du travail des enfants. Quand on n'a pas le choix, on essaie de faire travailler un peu tout le monde dans la famille pour essayer d'avoir de quoi manger.
Et justement, qu'est-ce qu'on appelle travail des enfants? Est-ce qu'il y a une explication ou disons vraiment une terminologie comme travail des enfants?
Oui, il y a une terminologie et il y a des définitions qui dépendent des conventions des Nations Unies et du BIT en particulier. Le BIT, c'est une agence des Nations Unies qui est née pour créer des normes, des conventions internationales. Il y en a une série sur le travail des enfants. Pour simplifier, les conventions du BIT disent qu'on ne peut pas commencer à travailler tant qu'on est en âge de scolarité obligatoire. Ça varie de pays à pays, autour de 14 ou 15 ans en gros. Ça, donc, si quelqu'un travaille au-dessus de cet âge, à temps plein, hein, pas un travail, disons, saisonnier après l'école pour aider les parents à la maison ou alors même dans les champs, s'il n'y a pas de danger, non, ça, ce n'est pas du travail des enfants, ça, c'est une aide familiale tout à fait, même bénévole, pour apprendre un métier. Mais on parle d'un travail à temps plein qui empêche l'éducation de ses enfants au-dessus de l'âge obligatoire. Ça, c'est la définition la plus simple. Maintenant, il y a certaines formes de travail qui sont particulièrement dangereuses et qu'un enfant, même s'il a 15 ans, ne devrait pas faire. Celles-ci sont définies par la convention numéro 182 du BIT sur les soi-disant pires formes du travail des enfants. Quelles sont les pires formes du travail des enfants? Ce sont des formes de travail comme l'exploitation des enfants dans la pornographie, dans les conflits armés, dans la traite des enfants à des fins d'exploitation économique et aussi certaines formes de travaux dangereux que chaque pays doit donner la liste. Voilà, si ce sont les pires formes de travail des enfants particulièrement dangereuses, alors si ce ne sont pas des crimes, on peut commencer à les faire à partir de 18 ans, même pas 15 ans. Donc la protection pour ces enfants est encore plus ample.
Et est-ce que tous les pays sont touchés par justement le travail des enfants?
Oui, géographiquement et historiquement. Comme je disais tout à l'heure, c'est très lié à l'aspect économique. Donc tous les pays, prenons par exemple le monde occidental, lors de la révolution industrielle en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple, donc, il y a un siècle exactement, dans les années 10 et 20 du siècle passé, il s'est posé la question du travail des enfants. Voilà pourquoi une des premières conventions du BIT, c'est l'âge minimum d'admission à l'emploi dans les secteurs industriels. Parce qu'à l'époque, il y avait plein d'enfants qui travaillaient dans les industries de charbon, des industries de la grande révolution industrielle en Europe et dans le monde occidental. Et donc, petit à petit, grâce au développement et aussi à l'aspect juridique et à l'aspect politique, donc ça s'est réduit dans le monde occidental, même s'il y a encore des poches dans certains pays hein, de travail des enfants. Et bien sûr, c'est encore présent dans les pays en voie de développement qui ont encore un fort connotation de secteurs informels dans leur économie. Parce que c'est surtout dans les secteurs informels que le travail des enfants se trouve, où il n'y a pas de législation, où il y a ce qu'on dit au BIT, un manque de travail décent pour les adultes. Quand les adultes n'ont pas un bon travail, un travail décent, ils sont obligés de faire travailler les enfants.
Et on parlait justement des conséquences de ce travail des enfants. Donc, bien sûr, ils ne vont pas, ils n'ont pas une éducation, mais y a-t-il d'autres conséquences?
Oui, c'est un cercle vicieux, on dit, le travail des enfants. Faire travailler un enfant, ça crée de la pauvreté. Pas seulement dû à la pauvreté, mais ça crée la pauvreté parce qu'un enfant qui travaille en bas âge, ce n'est pas une forme de travail qui a une protection sociale, pour laquelle le salaire est négocié avec des syndicats, avec des rapports de force industriels. Ce n'est pas un travail qui est fait donc, avec des mesures de sécurité nécessaires, donc, et ainsi de suite. Pas des horaires de travail réglés. Et donc, ce sont des formes de travail très, très précaires qui ne font que pérenniser la pauvreté. Donc, la conséquence principale, au-delà du manque d'éducation, c'est le fait que ces enfants vont générer encore d'autres enfants qui seront victimes du travail des enfants ainsi de suite, donc maintenir les pays dans un cercle de pauvreté. C'est ça la chose dramatique.
Et donc, on parle justement d'éliminer le travail des enfants d'ici 2030, donc c'est l'objectif des objectifs de développement durable, mais comment cela va être possible? Est-ce que cela va être possible?
Oui, je disais tout à l'heure, ça ne va pas être possible si on continue de faire les choses telles qu'on les a faites jusqu'à présent. Cela a été montré que c'était possible d'éliminer le travail des enfants. Je vais rappeler ça, il y a 20 ans uniquement, même la question du travail des enfants posait un problème du point de vue conceptuel. Parmi certains acteurs ou dans certains pays, c'était même difficile d'expliquer ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. C'est quoi le travail des enfants? Pourquoi on veut se mêler de cela? On avait encore beaucoup de tabous là-dessus. On pensait que c'était normal, qu'au fur et à mesure que la pauvreté allait être éliminée, il n'y aurait pas eu de problème. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Donc, déjà, on a réglé les problèmes culturels. Je veux dire. En gros, tous les pays membres de l'OIT et des Nations Unies reconnaissent qu'il y a un problème de différentes envergures et sont prêts à s'engager. Ça, c'est un point. Donc, le deuxième point, pour éliminer le travail des enfants, il y a plusieurs recettes qui ont montré leur efficacité. La première, de savoir de quoi on parle, d'être capable de voir les trends, donc les tendances du travail des enfants. Il faut faire de la recherche, continuer à faire de la recherche pour voir quels sont les chiffres et quelles ont été les formules qui ont marché. Après, il faut trouver un travail décent pour les adultes, comme je disais. Donc, renforcer la protection sociale, créer des emplois décents et monter des coopératives, faire en sorte qu'il y ait un dialogue social entre les employeurs et les travailleurs, que le gouvernement joue son rôle, qu'il y ait une bonne inspection du travail. Il y a tous les éléments d'un travail décent qui vont servir à éliminer le travail des enfants des conséquences.
Et en cette période de Covid-19, que fait justement l'OIT pour aider justement la protection sociale, les gens qui perdent leurs emplois et aussi justement essayer de limiter le travail des enfants?
On a fait des choses, on a ressorti des études pour voir quels ont été les effets du Covid dans toutes les conventions du BIT mises en œuvre par les pays membres. Et ensuite, on a essayé de réorienter nos interventions en tenant compte du Covid. On ne pouvait plus faire des activités de terrain, soi-disant, comme on les faisait avant. On a plus accès pratiquement au terrain. Moi, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe dans une plantation de cacao en Côte d'Ivoire plutôt que dans un atelier de mécanique dans n'importe quelle ville où les enfants travaillent. On a complètement perdu trace donc, du réel, du monde du travail. Donc, on a essayé de revoir nos interventions grâce à des méthodes créatives de dialogue avec tous les acteurs. Je dois dire qu'on est devenus tous au niveau des Nations Unies des spécialistes, des conférences et même ce qui a créé une forte sensibilisation qui est même plus forte qu'avant parce que les gens ont plus le temps à passer devant un écran, passer 30 minutes comme on est en train de le faire maintenant pour parler de ces thèmes. Avant, c'était très difficile, même à haut niveau, d'avoir des chefs d'agence, des ministres, à les mettre autour d'un table. Il n'y a plus de table, mais au moins, il y a des plateformes qui fonctionnent. Il y a, ironiquement, des aspects positifs à cela. Il y a beaucoup plus d'attention. Je ne sais pas, les directeurs généraux du BIT ou d'UNICEF ou le secrétaire général des Nations Unies, un prix Nobel de la paix, ça ne lui pose aucun problème de passer un appel avec nous et 5 minutes plus tard avec d'autres. Donc ça a changé, ça a changé. Il faut qu'on s'adapte et qu'on soit créatif.
Vous parliez justement des gens sur le terrain, donc vous arrivez avec la technologie de communiquer avec eux, n'est-ce pas?
Oui, à communiquer, à proposer des alternatives, la technologie. Ça nous aide beaucoup. Par exemple, l'inspection du travail, c'était un secteur qui n'arrivait pas à toucher les secteurs formels parce qu'ils étaient liés à certaines dynamiques du passé. On leur a proposé, est-ce que c'est possible d'utiliser la technologie, donc la géolocalisation ou des drones ou d'autres choses pour voir où se trouvent ces enfants, qui est en train de travailler, quelles sont les conditions de travail. On a des bons exemples. La technologie nous aide dans ce moment très difficile. Mais malgré ça, ce sont des petits progrès, quelques côtés positifs. Il y a aussi un autre aspect positif, je trouve. Peut-être le plus important, c'est l'opportunité que ça a créé cette pandémie. On a, pendant longtemps, des décennies, fait les plaidoyers pour que les pays investissent plus en protection sociale, en recettes pour bénéfices pour la perte d'emploi et ainsi de suite. On voyait que c'était toujours très difficile de trouver ces ressources dans les pays. Maintenant, à cause de la pandémie, on a dû fermer beaucoup de commerces, etc. Les pays et les organisations régionales aussi ont trouvé ces ressources. Donc, ces ressources existent quelque part. Donc, tous les plaidoyers qu'on avait fait, voilà qu'il y a une solution bien positive. Maintenant, notre plaidoyer est celui de dire, attention, il ne faut pas que ça s'arrête avec la pandémie, il faut que ça continue. Donc, ces subsides, cet accompagnement de la population plus vulnérable doit continuer. Si ça marche, ça veut dire qu'alors ça aura servi à quelque chose, au moins la pandémie dans ce sens. Mais pour le reste, c'est une catastrophe. Ça risque, comme je disais tout à l'heure, d'invertir des années de progrès.
Et c'est avec Francesco Dovidio, responsable des principes et droits fondamentaux au travail à l'OIT, que se termine notre podcast Escale sur le travail des enfants. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet, mais aussi sur les médias sociaux, Twitter, Facebook et SoundCloud à ONU Info. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour une nouvelle édition d'Escale.